Vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis maintenant, j'ai la chance de m'entretenir avec le réalisateur et compositeur Julien Nafou. Salut Julien, ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Ton deuxième long métrage, Brain Freeze, prend l'affiche dans presque 40 salles, je crois, partout au Québec, dès aujourd'hui. Et puis, avant de parler un peu du film, j'aimerais ça parler un peu de toi parce qu'on te connaît surtout en tant que compositeur, justement, au cinéma. Tu as commencé à peu près au début des années 2000. Tu as seulement deux longs métrages, puis Brain Freeze, c'est pas mal ton premier en un peu plus de 10 ans. Parle-nous
Ouais.
un peu là, de qui tu es, de pourquoi est-ce que tu as fait la transition de la composition à la réalisation?
Ben, d'abord, ça aurait dû, comment dire, c'est pas que c'est arrivé par accident, parce que je suis diplômé de cinéma à Concordia. C'est vraiment, je dirais pas que c'est ma première passion, parce que la musique, pour moi, je trouve que c'est un art qui est probablement un des plus bels arts. J'adore faire de la musique, mais je suis ce qu'on dirait comme autodidacte, même si j'ai pris des cours de piano, même si j'ai pris des cours de théorie musicale et tout. Mais j'ai pas fait d'études en tant que telle en musique. J'ai commencé un peu à faire de la musique dans des films parce que, par exemple, à Concordia, j'étais dans la même année que Kim Nguyen, et il me demandait: ah, tu fais de la musique, veux-tu faire la musique de mes films et tout ça. Et donc c'est un peu comme ça que c'est parti. La raison pour laquelle les gens me connaissent probablement plus en musique, c'est parce que j'ai composé donc la trame sonore de certains films qui sont assez remarqués ou dont on a parlé beaucoup. La réalité, c'est que j'ai, à un moment donné, j'ai décidé vraiment de plus me concentrer dans la réalisation, même si ça a pris 9 ans pour faire ce film-là, mais c'était pas quelque chose qui était prévu. En même temps, j'aime bien dire que ça, tous ces obstacles qu'on a eus pendant ces années-là ont quelque part ont bonifié le film. Mais en tout cas, on pourra en reparler. Et donc, oui, j'ai fait de la musique, et là, je me suis dit, ben, je pense que je suis plus à l'aise à faire la musique de mes films plutôt que de travailler vraiment en musique sur les films des autres. Et je pense qu'il y a un choix à faire tout le temps, parce que il faut se dédier beaucoup, disons, dans un art comme dans l'autre pour pouvoir percer. Ça fait quand même un moment que je n'ai pas fait de musique. J'ai eu la chance de faire la musique de Marguerite, qui a été nommée aux Oscars. Et ça a été... Ben, c'est parce qu'on est venu me chercher, puis il faut que, comment dire, il faut qu'on vienne me chercher pour me, je sais pas, pour me dire pourquoi on aurait envie que je fasse la musique d'un tel projet. Parce que oui, je pense que comme compositeur, j'ai quelque chose à offrir, mais je me sens pas super à l'aise à explorer plusieurs genres, plusieurs styles. Je trouve ça ardu, je vais dire. Tandis que si je fais la musique de mes films, de mon univers, et comme la musique de Brain Freeze, c'est un plaisir total. J'étais vraiment, vraiment dans le plaisir absolu. Tandis qu'en réalisation, c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup mieux. J'ai fait quelques appels. Bon, j'ai fait quelques clips, j'ai fait la publicité, mais je dois dire, depuis Lucidité passagère, et pendant que j'ai fait ce travail-là, disons, de préparation de ce film-là, qui a pris 9 ans. Je m'attendais pas à ça. J'ai eu la chance de travailler pour la compagnie de mon père, qui est une compagnie, moi, que j'adore. Et on avait un concept qui était vraiment le fun, que j'ai développé pendant plusieurs années, qui était de faire à l'interne vraiment un concept où on était nous-mêmes notre propre agence, notre propre maison de production. Donc, on créait tout le contenu. Et ça a été très, très formateur, parce que j'ai touché à tout. On avait section photographe, section vidéo. À la vidéo, on était entre 3 et 4 personnes. Et donc, on faisait le montage, on faisait le tournage de toutes les publicités. Tout ça. Et ça a été très formateur, et ça a été, je te dirais, quelque part au début, je me suis fait un peu violence, parce que je ne suis pas un fan de films d'horreur, je ne suis pas un fan de zombies, mais j'aime beaucoup les films d'humour noir. Les références pour moi des films que j'ai adorés, ça peut être Jeunet et Carreau, par exemple, leur univers, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé. Mais j'ai toujours eu un penchant pour faire des projets qui sont, comment dire, qui n'ont pas nécessairement les moyens de leurs ambitions. Et dans ce sens-là, Brain Freeze, pour moi, est une réussite, une grande réussite, parce que parce que je trouve que ce qu'on a réussi à faire est vraiment dans le ton que je recherchais. Et ce ton-là, je me suis cassé les dents dessus sur un autre film précédent, et peut-être même que ça a été une des raisons pourquoi j'ai pris du temps un peu, du recul pour réfléchir. Puis c'est, encore là, tu sais, c'est des opinions très personnelles que je partage ici, parce que il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé. Je parle de Magasin, un métrage que j'ai fait qui était très ambitieux, mais qui était surtout pour moi un peu une déception. Puis je pense que c'est dans le ton, beaucoup. Je trouvais que j'avais pas trouvé le ton qui unifiait le film. Quand on est dans une comédie noire comme Brain Freeze, qui est, on dirait, un humour qui est presque, je vais dire, britannique un petit peu. Tu sais, c'est un humour qui est, c'est pas de la caricature. On n'avait pas beaucoup de références de ça au Québec. Et c'est aussi ce que je me suis rendu compte il y a 9 ans quand j'ai fait lire le scénario. On n'avait pas de référence cinématographique de ce genre de ton. Là, on commence à en avoir à la télé, par exemple, je pense à Série Noire, je pense à d'autres séries. Ben, en fait, les gens qui ont fait Série Noire, c'est ce duo-là qui est incroyable, touche beaucoup à ce genre de ton-là que j'aime beaucoup dans la comédie noire. Et donc, c'est ça un peu mon parcours. Je dirais que j'ai comme un 5 ans où je suis allé... Je suis allé me former dans un contexte excessivement enrichissant, ce qui a fait que je suis arrivé probablement avec beaucoup d'outils. Des outils, par exemple, je ferai pas les effets visuels de mon film, mais je comprends très bien ce qu'un film nécessite si on veut faire tel effet visuel. Et donc, même au niveau de l'écriture, ça m'aidait d'une certaine manière. Mais c'est qui m'a demandé l'autre jour? On voit ton nom partout, t'as écrit, t'as réalisé, t'as fait de la musique. Coudon, est-ce que c'est parce que tu fais confiance à personne? Et c'est tout le contraire, en fait, parce que pour moi, le cinéma, c'est probablement un des arts les plus collaboratifs, et il ne peut qu'exister quand il est... Il y a des films qui sont faits, évidemment, à une ou deux personnes, mais je parle du genre de récit comme Brain Freeze. Tous les artisans ont, pour moi, une place aussi importante que le réalisateur, dans le sens où le monteur, il réécrit l'histoire, le directeur photo. Donc, c'est vraiment un travail de groupe. C'est le grand défi, pour moi, les deux grands défis, c'est d'avoir de s'entourer des bonnes personnes qui vont comprendre ton univers, ce qui va faire que tu vas être capable de les laisser travailler, de les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est pas à toi de leur dire comment faire ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui vont exceller dans leur métier. Puis ça, c'est je pense au monteur, au mix, justement, ou le mixeur, qui est un mixeur extraordinaire, Gavin, qui est une sommité à Montréal. Il jouait avec ma musique. Il n'y a pas un moment où j'ai dit quoi que ce soit. C'était un plaisir de le voir jouer, et avec mes tracks musicales, avec tout, puis c'était magique presque d'une certaine manière.
Ben, tu dis que tu es amateur justement de comédie noire, mais qu'est-ce qui t'a amené vers le genre du film de zombies, ou tout simplement la comédie d'horreur, disons, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin un peu, pas trop naturel quand on regarde un peu ton parcours, mais qui se prête quand même bien là, aux thématiques que tu voulais explorer dans le film?
Oui, c'est ça. C'est que dans le processus, il y a les thématiques qui sont des thématiques qui sont les miennes, forcément. J'en ai fait quelque chose de personnel. La genèse de ça est assez bête. C'est-à-dire que je venais de sortir de Lucidité passagère, qui était un film choral réalisé à 4 réalisateurs, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui n'a pas de pacte de réalisateur, parce qu'on a décidé que c'était un film qui allait être organique. Donc, on a servi l'histoire. Et c'est ce que je veux faire de toute façon dans tous mes films, mais on l'a servi à 4 pattes, donc on sait même pas qui a réalisé quoi, en fait, d'une certaine manière. Et c'est bien, c'est ce qu'on voulait, mais j'essayais de réaliser un premier, ou d'écrire en fait un premier long, puis j'étais un peu dans je me prenais un peu les pieds dans le concept d'écrit sur ce que tu connais, essayer de faire quelque chose de personnel, puis j'arrivais pas à écrire quoi que ce soit qui m'intéressait. J'avais l'impression d'écrire pour les institutions au final. Et c'était déjà très contingenté, et c'est encore beaucoup plus maintenant. Donc, j'avais cette espèce de frustration que j'étais en train de perdre mon temps. Alors, je me suis dit, écris quelque chose pour le plaisir. Tu vois. Et je pense que j'étais à l'île des Sœurs, je me suis dit, ah, ce serait drôle, hein, un film de zombies l'hiver à l'île des Sœurs. C'est aussi con que ça. Et je l'ai écrit avec cette espèce d'impression qu'il y avait quelque chose d'original dans l'idée de voir des zombies dans la neige au Québec. Et j'ai écrit ça, je l'ai envoyé à la SEDEC et il y a eu un flou. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est tombé sur la bonne personne et j'ai eu une bourse tout de suite et je me suis retrouvé avec cette patate chaude dans les mains. C'est ça que j'ai envie de dire. OK, là, je vais devoir écrire un film de zombies. Mais donc, j'ai commencé à lire beaucoup, à regarder beaucoup parce que je me suis éduqué, en fait, sur le genre. Et je suis très content de l'avoir fait. Puis, ce qui est vraiment intéressant, puis Barbara, quand elle a embarqué son projet, la productrice aussi, c'est très surprenant de sa part qu'elle fasse un film de zombies. Si on regarde sa filmographie, elle a fait du film d'auteur, beaucoup, du cinéma beaucoup plus intimiste et tout ça. Puis, mais elle avait, je pense, déjà partagé le même genre d'humour noir, mais on avait tous les deux décidé que ça allait être un objet qui était pas intelligent, mais pas juste gratuit, un film gore pour être gore. On pensait qu'il y avait là-dedans, dans le sujet de ce golf-là qui engage cette compagnie. Puis là, on revient à des thèmes qui me sont chers. Parce que le magasin, c'est un peu à propos de ça aussi, ces espèces de grosses corporations qui s'insèrent et au final prennent le contrôle d'une certaine manière. Il y avait quelque chose à dire là-dessus. Et ce que je me suis rendu compte qui est très intéressant, c'est que le zombie en soi est une créature très intéressante au niveau scénaristique, au niveau... Parce que, contrairement à Dracula ou Frankenstein, le zombie est dénaturé, c'est-à-dire il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de... Mm-hmm. Il est mort, donc il est en quelque sorte un bocal vide dans lequel on peut mettre ce qu'on veut, parce que la plupart des gens y ont mis un peu la même chose, c'est-à-dire des mangeurs de chair. Mais si on va un peu plus loin, si on s'amuse, parce qu'il n'y a pas de règles écrites sur ce qu'un zombie doit être. À la base, le zombie vient d'Haïti. C'était les sorciers qui faisaient... Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'écrivait là-dessus encore. Et c'est encore très, très à la... C'est encore un mythe qui existe beaucoup en Haïti, qui fait vivre les morts pour prendre contrôle d'eux, pour les rendre esclaves d'une certaine manière. C'est le mythe du zombie qui vient de là. Et en bout de ligne, c'est un peu ça que mes personnages ou mes zombies sont, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés par cette molécule-là, qui est une molécule intelligente et qui en font leurs esclaves. L'esclave de ce que cette molécule doit faire, doit produire, ce qu'elle a été codifiée pour faire. Et de là, je me suis beaucoup amusé. Et j'ai touché à des thèmes. Et à chaque fois que je touchais à des thèmes, il fallait que ça serve l'histoire. Mm-hmm. Parce que oui, j'aime ce qui est absurde un petit peu. C'est du gazon qui pousse sur des zombies, je trouve ça bon.
Ouais.
Mais, je veux dire, je ne vais pas l'écrire si ça ne sert à rien. Et je m'inspire parce que je ne suis pas un cinéaste engagé, mais je suis un citoyen qui est préoccupé, je dirais. Mm-hmm. Et à l'époque où je l'écrivais, c'était l'époque de Trump. Oui, il y avait le mur. Le mur de cette île-là faisait écho pour moi à la peur de l'autre. Et c'est ça pour moi le sujet réel du film, c'est la peur de l'autre.
Ouais.
On pourra en reparler plus qu'un film de zombies même. Et c'était ça qui pour moi était le moment où je peux dire que j'ai voulu, pas proclamer, mais j'ai voulu, disons, parler de notre réalité à travers notre film. Après, il y a la pandémie qui est arrivée, puis ça, je ne l'ai pas vu venir pantoute, là.
Ouais.
On venait de tourner la scène de Roy Dupuis qui range son papier de toilette, puis je voyais aux nouvelles, deux jours plus tard, ce qu'on a tous vu, les gens qui s'enfuyaient des supermarchés avec des tonnes de papier de toilette, puis j'étais, ça se peut pas, c'est fou. Et donc là, je me retrouve avec un film qui est en phase complètement avec son temps. J'en suis pas satisfait, je suis pas heureux de ça. Peut-être la seule bonne chose, c'est que je considère que c'est un divertissement qui est... C'est une comédie noire, en fait. Peut-être que ça va mettre du sourire sur les gens, peut-être, un petit peu. C'est pas... On va pouvoir rire un peu de cette situation-là.
Ouais. Mais justement, il y a beaucoup de films de zombies qui sont de l'air du temps. Bon, là, tu mentionnais Trump, la peur de l'autre et tout. Évidemment, on en parle beaucoup dans le film, mais si je me fie au... Je ne suis pas un si grand amateur non plus du film de zombies, mais j'ai vu quelques films de Romero, puis quand... je crois que c'est le deuxième, Dawn of the Dead ou quelque chose comme ça, là, c'était vraiment sur le consumérisme et puis comment est-ce que les zombies retournent à leurs habitudes d'humains puis ils vont dans un centre d'achat puis magasinent pour planer et tout. Donc, il y a toujours un peu... Est-ce que tu crois que c'est essentiel dans un film de zombies que ça aborde justement les thématiques du moment où le film est fait ou en tout cas est écrit? Ou si au contraire, là, selon ce que tu me dis, avec la pandémie, c'est sûr qu'on a un regard un peu différent face au film, mais est-ce que justement, toi, tu serais en faveur... Est-ce que c'est ton but justement qu'il y ait une certaine résonance par rapport au monde où on vit ou pas vraiment?
La chose la plus importante pour moi, c'était, puis c'est ce que c'est au final, c'est un character-driven story, c'est mes personnages. Je pars de mes personnages et il faut que mes personnages soient intéressants, il faut qu'on ait envie de les suivre. Et donc, non, la base de ce film-là, et je parle du sujet qui est la peur de l'autre, mais il y a très vite, c'est devenu à propos de cet adolescent. Mm-hmm. Très vite, c'est devenu à propos de cet adolescent qui allait devoir grandir forcément, faire son passage de l'âge adulte à travers ces espèces de monstres. Et il y avait, pour moi, puis c'est pas appuyé, c'est jamais appuyé, mais il y a quelque chose qui fait écho à la vraie vie, c'est sûr. Tu sais, quand on est adolescent, le monde nous apparaît soudainement monstrueux et je m'attachais à ce genre de choses-là, donc j'étais jamais en train de dire « je fais un film de zombies, donc ». Par contre, il y a eu 2-3 moments où ma productrice ou certaines personnes, on s'est interrogé, on s'est dit ben, « il faudrait quand même qu'on coupe une jambe ici ou qu'on coupe un bras ici, tu vois ». Mais c'était pas, encore une fois, c'était pas gratuit, ça arrivait à des moments où, tu sais, oui, ça fonctionnait, puis on s'attend pas là-dessus. Il n'y a pas de gros plan là-dessus. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, disons, il y a pas de... Je ne sens pas que dans ce film-là, les gens vont ressentir que je me suis délecté, disons, du gore ou de ces choses-là. C'est pas du tout ce qui transparaît, à mon avis, dans le film. À mon avis, ce qui transparaît plus, disons, ce récit initiatique, ce récit entre ces deux personnages-là. À la rigueur, c'est trois films en un. À la rigueur, c'est un coming of age, un body movie et un film de zombies. Donc, oui, tu as raison dans ce que tu dis. Romero, par exemple, l'a fait. Et je pense que souvent, les gens, quand ils racontent des histoires de zombies, ils s'en servent pour parler de notre humanité, parce que c'est ce que c'est un peu, c'est le zombie à la base représente la peur qu'on a face au monde. Et tout le monde l'a traité d'une certaine manière, mais il y en a d'autres films où il n'y a absolument rien à tirer d'un point de vue thématique, je veux dire, qui sont vraiment juste des divertissements. Même 28 Days Later, qui est un de mes films de zombies favoris, moi, je ne peux pas dire que j'en ai tiré des leçons, mais j'ai trouvé que c'était un excellent divertissement. Donc non, les thèmes d'ailleurs qui sont là sont des thèmes qu'on voit dans mes autres films aussi. Donc ça, je me suis comme Robin Aubert s'est approprié le genre, c'est un film de Robin Aubert, tu vois.
Ouais.
Et c'est magnifique et c'est parfait comme ça. Il n'y a personne d'autre que Robin qui aurait pu faire son film. J'imagine que j'ose croire que personne qui aurait eu la même approche que moi par rapport au film de zombies aussi. Donc, c'est des instruments dont je me suis servi pour raconter une histoire.
Ouais. tu mentionnes vouloir faire un genre un peu plus différent de cinéma. D'ailleurs, ben, ton film a ouvert évidemment le festival Fantasia. J'ai d'ailleurs vu aussi quelques affiches dans la chambre de l'adolescent sur justement Fantasia, même Turbo Kid et tout. Ben, parle-nous un peu de comment est-ce que tu as construit cette distribution-là. Évidemment, il y a quand même des grosses pointures. Roy Dupuis, Anne-Elisabeth Bossé. Ben, il y a évidemment Yanny Bédard là, qu'on connaît un peu moins, mais qui justement est très, très bon.
C'est mon coup de cœur.
Oui, bien. Même l'enfant également, là, qui est très, très charismatique. Parle-nous de comment tu as construit un peu cette distribution-là. Puis eux, est-ce qu'ils. Je ne sais pas, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement parler pour eux, mais. Est-ce qu'il était pas nécessairement content, mais est-ce qu'il. Ben, on va le dire comme ça, là, est-ce qu'il était content justement de jouer dans un genre cinématographique qui est peu présent au Québec? Là, à la base, le film d'horreur, oui, le film de zombies, mais aussi le film, justement, un peu comme le film de genre, là, tout simplement, là, qui est difficile à faire au Québec.
Ben, tout le monde, à mon avis, est rentré pour différentes raisons. Puis c'est sûr que les gens ont tout de suite. Quand ils lisaient le scénario, ont tout de suite remarqué que c'était pas un vase vide, là, qu'il y avait, qu'on disait des choses et qu'il y avait une histoire intéressante à suivre. C'est sûr que Roy Dupuis, c'était clair qu'il y avait quelque chose qui lui plaisait dans l'idée qu'il y avait un message environnementaliste, mais c'est jamais très appuyé. Et Roy Dupuis revendique clairement qu'il a embarqué dans le film au moment où il a vu le démo. Qu'on a été obligé de faire parce que les institutions ne comprenaient pas le ton du film.
Ouais.
Et il a trouvé excessivement beau et il a dit c'est rare des films zombies qui sont beaux comme ça, ça m'intéresse, je veux le faire. C'est sûr que l'histoire l'intéressait aussi, mais je sais que ça a été une des raisons pourquoi il a décidé de le faire. Puis, comment j'ai construit la distribution? Ben, Roy Dupuis a été le premier à embarquer, puis c'était pas celui que je voyais dans le rôle avant qu'il devienne un survivaliste gardien de sécurité, parce que c'est pas ce qu'il a toujours été, ce personnage-là. Et quand c'est devenu ça, j'ai dit oui, c'est lui. Et j'avais fait, bien sûr, la musique de Truff, donc je l'avais vu évoluer dans un univers onirique, un peu fou, et jouer assez sérieusement. Puis je me suis dit, je pense qu'il peut bien travailler dans le ton que je recherche.
Ouais.
Et après travailler avec lui, c'est très intéressant. Donc, il y a toujours le risque quand on commence à engager ce qu'on appelle le bottin du DA, de distraire puis de faire comme, bon, j'étais au courant de ça, je le savais, mais je me disais, il y a quelque chose de ludique dans ce film-là. Il y a quelque chose qui fonctionne si j'ai une brochette d'acteurs qui viennent d'ailleurs de différents horizons. Là. C'est pas la même gang. Là. C'est pas la gang du plateau. Là.
Non.
Il y a un peu de... Mais je me suis dit, ça va participer, à mon avis, ça va participer à l'amusement. Mm-hmm. C'est ça que je me suis dit. Là, il y a, dans un cas, une déception parce que je trouve que c'est sous-utilisé. Puis, tu sais, je veux dire, ça c'était plus une question de... manque de temps parce que j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire avec ce personnage-là. Puis oui, à ce moment-là, peut-être dans ce cas-là, peut-être que ça peut distraire. Sinon, j'ai l'impression que ça distrait pas vraiment. Quoique, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit que de voir Stéphane Crête étant fan de Galaxy près de chez vous, c'était distrayant pour eux. C'est possible, mais il n'y avait pas dans le sujet quelque chose de sérieux où je me disais il faut que les gens soient investis dans le propos. J'avais envie que les gens soient investis dans cette espèce de récit, dans l'amusement, dans le ludique, j'ai le goût de m'amuser pendant une heure et demie. Et c'est ce que c'est, à mon avis, ce film-là. Je pense pas que tu vas t'ennuyer pendant une heure et demie. Peut-être que tu vas aimer, tu vas pas aimer, mais c'est fait vraiment avec l'amour des personnages. C'est fait avec cet adolescent. Moi, en tout cas, je sais que je l'aimais beaucoup, puis je pense qu'on a envie de le suivre, puis on a envie de savoir ce qui se passe. Après, les bébés, C'est fou parce que je me suis rendu compte au montage à quel point ils jouaient vraiment bien. C'est pas moi qui les ai dirigés, mais j'ai une théorie. La théorie étant que quand tu castes un bébé, des jumelles en l'occurrence, la plupart du temps, parce que les heures sont beaucoup trop longues pour un bébé, tu fais du casting de parents. C'est ça que tu fais. Parce qu'ils vont devoir accompagner leur bébé. Tu vas barouetter leurs enfants. Donc, il faut qu'ils aient un esprit très ouvert. Et je pense qu'au final, tu choisis donc des parents qui ont cet esprit ouvert, qui sont allumés, qui sont intelligents, j'ai envie de dire, qui ont, tu sais, qui ont une curiosité naturelle. Et je pense que ça transparaît dès le début chez les enfants. Et je pense que c'est la raison pourquoi les enfants ou les bébés peuvent paraître très allumés. Moi, je trouve que ce bébé-là, complètement allumé, là, je veux dire, il suit ce qu'on doit suivre, il regarde jamais la caméra, c'est vraiment spécial. C'est ma théorie, c'est ma théorie, je sais pas.
Non, mais c'est très vrai, puis c'est jamais évident là, justement de tourner avec des enfants. Puis là, ici, ben, on est content qu'il y ait beaucoup de screen time parce que justement, là, c'est naturel, c'est beau à voir. J'aurais deux petites questions en terminant. Ben, tu mentionnes là, la beauté du film, puis moi aussi, c'est ce qui m'a frappé parce qu'habituellement, dans ce genre de film-là, bon, on sait là, qu'on n'a pas des budgets à tout casser non plus ici. Les films de genre sont rarement ceux là, qui attirent les gros budgets. Comment est-ce que tu as réussi justement à bien le faire paraître? Parce que moi, c'est ce que je trouve dommage dans le cinéma québécois, c'est qu'on ait beaucoup de ressources. On a beaucoup de studios ici d'effets spéciaux à Montréal. Il y en a qui sont primés aux Oscars et qui vont faire des grosses productions. Puis pourtant, ici, on n'est même pas capable de se les payer. Comment justement tu as réussi à bien. Est-ce que c'est rendu plus accessible que de faire des bons effets spéciaux abordables, disons, dans le cinéma?
Ben, d'abord, ça va être de plus en plus le cas. Les films vont être de plus en plus beaux, les films de genre. Il y a une relève incroyable qui s'en vient, qui sont nés avec des caméras dans les mains, qui connaissent After Effects et tout ça. Et tout ça, ça aide beaucoup à rendre le produit plus beau parce que tu sais déjà ce qu'il te faut et donc tu peux écrire en conséquence. Et dans notre cas, ça prend un producteur qui met l'argent à l'image. Et Barbara, c'est ça, c'est exactement ça. Et je vais te dire, ça prend un dévouement total. Moi et elle, évidemment, on a réinvesti de notre salaire, mais c'est pas juste ça, parce que c'est pas assez. Il nous aurait fallu 10 fois plus que ce qu'on aurait aimé avoir, mais ça prend une équipe qui a le goût de s'investir, un directeur photo qui a le goût d'aller faire des appels puis d'aller chercher les meilleurs techniciens au prix de base. Il faut que tout le monde mette du sien. Et c'est comme ça qu'on arrive à sortir la tête de l'eau. Et dans le cas, tu sais, Fake Studio, qui a fait presque tous les effets visuels, ben, Marc Côté, c'est un de mes amis. Alors, tu sais, oui, ils m'ont aidé, ils ont réinvesti. Eux aussi, les acteurs ont investi. Tout le monde doit, comme, y mettre du sien. Mais sauf qu'il faut que tu mènes le bateau, il faut qu'ils comprennent dans quoi ils sont, il faut que le message passe bien pour que tout le monde ait envie de participer. C'est comme ça, je pense, que ça s'est fait. Je pense que c'est comme ça qu'on a réussi. Moi, j'appelle ça sortir la tête de l'eau parce que le film ne ressemble pas à ce que j'avais en tête, mais ça, tu le sais dès le départ. Mais je suis excessivement fier du résultat final parce que l'histoire est là. Et oui, les effets visuels, c'est pas top-notch, mais ils marchent, ils fonctionnent, ils racontent l'histoire. Et la photo est super belle de Mark Simpson. Donc, tu sais, c'est un peu tout, je dois dire. Mais la relève va faire des films incroyables. Et je pense qu'on est sur le point un petit peu de changer les manières dont on tourne. On est encore encarcané dans quelque chose, une structure un peu rigide, je trouve.
Puis en terminant, là, je sors un peu du cadre du film. T'en as parlé un petit peu, là, mais j'aimerais ça, quand je parle aux réalisateurs habituellement, j'aime ça voir leurs influences, les réalisateurs ou les films qu'ils apprécient et tout. Donc, j'aimerais ça voir avec toi, là, qui sont les artisans du cinéma là, qui t'ont beaucoup inspiré depuis le début de ta carrière. Là, j'ose pas dire John Carpenter parce que tu disais que t'étais pas un grand fan
Non,
du
c'est...
cinéma.
Ouais,
Là.
non,
Réalisateur, compositeur, il y en a quand même un petit peu, là, mais.
Non, mais regarde, moi, ça va par film. Tu sais, tu vois des films, mais tu te dis, ah, ça, j'aurais aimé le réaliser, tu vois. Plus que des réalisateurs. Alors, Goodfellas, par exemple. Tu sais, ouais, je vois ça, je capote. Delicatessen. Des moments, Pan's Labyrinth, Persona de Bergman, où je regardais puis je dessinais les plantes. Il y a des films forts comme ça pour moi. Puis c'est sûr que les réalisateurs, je les idolâtre aussi, mais j'idolâtre surtout certains films, même un réalisateur que j'aime pas particulièrement, mais Rodriguez, quand il a fait ce film en noir et blanc, cette adaptation, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un film que j'aurais tellement voulu faire. Comment ça s'appelle?
Sin City.
Sin City.
Ouais.
Donc, c'est ça. J'ai des films que j'aurais rêvé avoir fait. C'est
Ouais.
ça que j'ai envie de dire plus.
Non, ben c'est parfait aussi parce que c'est ça, c'est rare là, des réalisateurs qui sont constants tout au long de leur carrière aussi. Là, fait que, il y en a qui explorent
Ouais.
plein de. Il y en a qui ont un large spectre, puis il y en a qui sont, comme Wes Anderson, assez fermés sur le type de film.
Ben ouais, je peux te dire, pour moi, l'artisan le plus complet, c'est Clint Eastwood.
Ouais.
Mais c'est pas lui qui fait les meilleurs films, mais c'est fou, et je trouve qu'on le reconnaît pas assez.
Ouais.
Même si, tu sais, c'est-tu le plus grand réalisateur? Non, mais c'est l'artiste le plus complet, je le trouve malade. Là, il a 90 ans, il joue encore avec la musique de ses films.
Ouais. Non,
Et ça se remarque presque pas, ce qui est une qualité, tu vois.
Non, je suis très d'accord avec toi. Ben, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Julien, mais je te remercie beaucoup
Ouais, merci à
d'avoir pris
toi.
le temps de nous parler.
Je vais
Oui.
écouter ton émission.
Ben,
Ça
parfait. Ben,
marche pas.
merci de te compter comme un nouvel auditeur. Puis sinon, on souhaite la bonne chance à évidemment à Brain Freeze là, qui prend l'affiche à beaucoup d'endroits au Québec
Ouais.
aujourd'hui même. Donc, merci beaucoup, Julien.
Merci beaucoup à toi. C'était vraiment chouette.